Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Live.
Nicolas Villas.
Soyez les bienvenus sur RMC si vous nous rejoignez dans 59 minutes précisément, coup d'envoi de la première affiche de la 28e journée de Ligue 1. L'Olympique Lyonnais face au FC Nantes, OL 10e de Ligue 1 qui reste sur un spectaculaire 3-3 à Lille, face à Nantes 14e qui n'a que 6 points d'avance sur la zone rouge. On est avec Roland Courbis, salut coach.
Salut les amis et salut à tous.
Encore une belle affiche hein, pour ouvrir la journée, hein. C'est pas mal hein, ce petit
On va voir, c'est disons, allez, Lyon-Nantes après on verra. Dans quelques jours, le Nantes-Lyon en demi-finale, l'objectif sera quand même élevé.
Et oui, puisque ces deux équipes se retrouvent en demi-finale de Coupe de France début avril. Match qu'on va vivre, qu'on va suivre avec Timothée Mémon et Aurélien Tiercin qui sont au Groupama Stadium. Salut les gars!
À tous. Salut Nico, salut coach, salut à tous.
Salut, salut.
Bon, on a encore allez, une petite heure avant le coup d'envoi du match. Il a du mal à se remplir quand même le Groupama Stadium là.
Oui, c'est pas encore la grosse affluence. Bon bah de toute façon, c'est le problème récurrent un petit peu de ce stade de 60 000 places.
Et pourtant, il y avait un match enlevé de rideau, ce qui n'existe plus trop de nos jours. Un match enlevé de rideau des filles qui jouaient en Coupe de France contre Fleury, qui se sont imposées 2-0 les Lyonnaises et qui affronteront en finale le Paris Saint-Germain contre je ne sais plus quel est l'autre demi-finale. Mais vous allez m'aider. Bref, il y avait un petit lever de rideau, mais effectivement, ça n'a pas amené beaucoup de monde. Et puis, la circulation à Lyon le vendredi soir, il faut connaître. C'est un truc de spécialiste quand même.
Et c'est vrai qu'il y a ça aussi à prendre en considération. L'autre demi-finale, c'est PSG Evian Thonon. Ce sera demain à 16h. Est-ce que vous avez les compos déjà, Tim et Aurélien?
On a la composition lyonnaise, déjà avec toujours cette absence d'Anthony Lopez, touché au doigt il y a quelques semaines désormais, et qui laisse encore sa place à Rémy Rioux. Dejan Lovren, Castello Luqueba pour la charnière centrale. On jouera en 4-3-3, latéral droit Sahel Koumbedi, latéral gauche Nicolas Taliafico, un milieu donc à 3, Le Penant, Tolisso, Cacré, et puis devant, Alexandre Lacazette est accompagné de Bradley Barcola et de Amin Sarr. Ryan Cherki va devoir se contenter du banc de touche aux côtés notamment d'Oussem Aouard, Jeffinho ou encore Moussa Dembélé.
Et pour celle de Nantes, il va falloir patienter un peu messieurs.
Roland, je te vois
on ne s'attendait pas, il y a une blessure Cherki?
Bah écoute, a priori non coach. Un choix de l'entraîneur, certainement. Il n'a pas brillé lors des derniers matchs. C'est plutôt. Okay. Mais bon, c'est vrai qu'on attendait son association avec Lacazette qui avait très bien marché. Mais bon, écoute, on va creuser un petit peu dans la soirée pour savoir pourquoi Cherki n'est pas titulaire ce soir.
Après, Laurent Blanc l'avait un petit peu pas crépi, mais enfin, il avait expliqué en conférence de presse que Ryan Cherki avait de grosses qualités, que c'était un joueur de Ligue 1 à n'en pas douter, mais que sur la répétition des efforts, sur le plan du coffre physique, il y avait du travail à faire, il y avait des progrès à faire, et peut-être estime-t-il qu'il n'est pas capable d'enchaîner.
Et bien justement, on va s'arrêter sur Alexandre Lacazette qui est donc titulaire ce soir face à Nantes. Lacazette qui sort d'un doublé contre Lille, qui a inscrit 5 buts sur ses 4 derniers matchs, qui en est à 20 réalisations depuis le début de saison et qui est le meilleur buteur de l'OL cette saison. Lacazette qui d'ailleurs lors du match contre LOSC faisait son retour après un mois d'absence. Et pour Blanc, quand il est là, ça change tout.
Quand vous avez un très bon joueur et un buteur dans votre groupe, quand il est là, tout va bien. Quand il n'est pas là, ça va un peu moins bien parce que les buts, c'est la chose la plus difficile que vous avez à faire. Et on s'en aperçoit pas forcément quand il est là, mais c'est surtout quand il n'est pas là qu'on s'en aperçoit.
Alors, comme l'a titré Thibaut Jean-Grand dans le podcast After Lyon, que vous pouvez aller écouter, l'OL est-il Lacazette dépendant? On vous attend, supporter de l'OL au 32-16. Et est-ce que sa saison, elle n'est pas un peu sous-cotée également, Roland?
C'est-à-dire que sa saison à lui, elle est magnifique. Mais automatiquement, on s'occupe de toi. Si ton club est au moins dans les 5, 6e, par là, qui peut jouer une qualification pour revenir la milieu du tableau pour l'Olympique Lyonnais, on dit « Oh ben ouais, tiens, la casette, c'est pas mal son retour. » Alors qu'en vérité, c'est pas mal du tout.
Il y a une Lacazette dépendance à l'OL cette saison?
Clairement, Nico, il a marqué 16 buts déjà. Si t'enlèves Tété qui est parti à Leicester depuis, tous les autres avec tous les autres ensemble, Cherki, Barcola, Dembélé, etc. C'est 14 buts pour l'ensemble de l'effectif de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1 et Alexandre Lacazette à lui tout seul, c'est 16 buts. Et puis on a vu par exemple un Lyon-Lorient il y a quelques temps ici là au Groupama Stadium, sans Lacazette, il y a aucune efficacité offensive. Ça avait terminé sur un 0-0. Puis la semaine dernière, c'est c'est évident, quand un joueur change tout lui tout seul lorsqu'il rentre, c'est qu'il se passe vraiment quelque chose. Et puis il a vraiment cette âme de leader. À la fin même, on entendait Corentin Tolisso le dire et le souligner. La Cazette, depuis son retour, on aurait pu craindre qu'il vienne se reposer un peu sur ses lauriers à Lyon, mais au-delà de ses buts qu'il avait toujours mis finalement à l'OL, il apporte vraiment cette âme supplémentaire et il incarne vraiment l'Olympique Lyonnais à quasiment à lui tout seul.
Alors justement, puisque tu évoques ça, c'est vrai, est-ce que tu es surpris toi Roland par la saison de la Cazette finalement? C'est vrai qu'il y avait des doutes. Alors quand peut-être, allez, je vais pas dire sa motivation, mais sa fraîcheur physique, son implication, son rendement également, est-ce que ça te surprend? Il était pas sur des stats dingues hein, sur ses dernières saisons en Angleterre.
Non, surprendre non, la seule inquiétude que j'ai, c'est sur ces blessures qui sont des blessures les musculaires. Alors les nouvelles formules, c'est problème musculaire, fatigue musculaire. Oui.
Là, c'était les ischios.
Mais là, si tu veux, ce qui est vraiment dangereux, c'est une rechute. Et là, bon, j'espère qu'ils seront prudents, puisque le championnat maintenant s'est terminé et que la Cazette ne va pas jouer, par exemple, ce soir, 93 minutes, parce que le match le plus important de la saison, c'est la demi-finale à Nantes. C'est plus les matchs de championnat. Ouais. Le championnat, c'est fini.
Alors, c'est vrai que tu le disais, hein, peut-être qu'on parle moins de la saison de la Cazette parce que la saison de Lyon est pas top, même s'ils peuvent encore remporter la Coupe de France, qui serait voilà. Un titre qui n'est pas arrivé depuis un moment également, depuis plus de 10 ans pour l'OL. Tu penses que dans un coin de sa tête, il regrette un peu ou pas la Cazette, toi?
Non, je pense pas. Puisque dans tous les cas, il voit que, premièrement, lui, ça marche bien. Le public est pour lui à fond. Il fait progresser ses coéquipiers. Non, je pense qu'il est heureux. C'est parce qu'il est heureux, justement, qu'il arrive à faire de belles performances.
Et autre joueur en vue à l'OL en ce moment, c'est Bradley Barcola, peut-être un joueur d'ailleurs qui brille aussi grâce à l'apport et à l'expérience de la Cazette. 3 buts sur ses 4 derniers matchs. Écoutez ce que Laurent Blanc en disait hier en conférence de presse.
Bradley, pour être arrivé là en début de saison, bon, ok, hein, mais voilà, je ne l'ai pas vu. On ne l'a pas vu de suite, Bradley. Il n'a pas donné le maximum ou ce qu'il est en train de donner aujourd'hui. Il ne l'a pas fait voir de suite. Ou alors, nous, on ne l'a pas vu, peut-être. Mais là, si on ne le voit pas, c'est qu'on est, il y a un problème de vue.
Mais c'est pas plus simple de dire il a progressé, tout simplement.
Alors il le dit hein, par la suite, hein, parce qu'il y a l'explication. Après il dit, je suis allé le voir, je lui ai expliqué, écoute, va falloir qu'en gros tu ronges ton frein. Je l'ai mis sur le banc, il m'a pris pour un fou. Après il essaye de t'expliquer que c'est grâce à lui aussi qu'il est devenu bon, un petit peu Laurent Blanc. Mais t'as l'air un peu étonné par les explications toi aussi.
Ben oui, déjà l'utilisation de ce joueur. Est-ce que c'est à droite? Sincèrement, j'ai un doute. Est-ce que c'est avec deux attaquants dans un 4-3-1-2 là, cette organisation bidon? Donc il y a un numéro 10 derrière les deux attaquants. Non, je le vois sur un côté, rentrer, dribbler, ouvrir le couloir à l'arrière latéral qui est derrière lui. Et donc ce joueur-là a des possibilités pour dribbler, pour obtenir des coups francs dangereux. Non, je le trouve très intéressant. Et c'est certainement grâce à Laurent et à Franck Passy qu'il a progressé. Maintenant, ça fait combien de temps que Laurent est arrivé?
Ça fait 17 matchs de Ligue 1 exactement, c'était juste avant la Coupe du Monde.
Il y a le temps quand même de progresser, que ce soit dans tous les secteurs, et notamment dans le sien. Et je pense et je trouve que sur les derniers matchs, c'est devenu un joueur important des 15 meilleurs joueurs lyonnais.
Timothée, toi qui connais bien la région et le club aussi, est-ce que la formation lyonnaise, ce label Made in OL est en train de revivre un petit peu là ces derniers temps? On voit quand même des joueurs qui s'imposent en équipe première. Alors certes, les résultats sont pas forcément ceux espérés, mais enfin, ils commencent à s'imposer en équipe première. On a de plus en plus ces derniers temps quand même.
C'était une volonté, hein, quand ils ont recruté Tolisso et la Cazette, c'était une volonté de redonner un petit peu les clés au gang des Lyonnais dans le vestiaire. Pendant un temps, on avait estimé que la formation lyonnaise créait un groupe dans le groupe et que cela posait problème. On a senti aussi que cela créait un manque peut-être d'attachement, d'investissement avec le club. En faisant revenir ces joueurs-là, on a réouvert la porte à cela et peut-être que ça a libéré ces jeunes. S'il y a des jeunes qui émergent aujourd'hui comme Barcola, c'est peut-être parce que ils ont été décomplexés par les grands frères que sont des joueurs comme Alexandre Lacazette. En tout cas, il y a une volonté d'aller dans ce sens-là du côté de l'OL, c'est une certitude.
Oui, supporters de l'OL, si vous voulez réagir, on vous attend, hein, bien entendu, au 32-16. T'as l'impression, toi, Roland, que la formation lyonnaise est en train de renaître là ?
Pas du tout.
Ah oui ?
Donc il y a une...
Bah pourtant on les voit ces jeunes là, ils sont pas mal, non?
Ben ouais, mais je regarde les résultats.
Ouais.
Donc et je regarde aussi la façon de jouer. Construire une victoire à domicile avec 3 numéro 6, ben sincèrement, je ne vois pas les entraînements tous les jours, donc je peux pas me positionner, ça serait trop prétentieux de ma part, mais je peux quand même être surpris. Un Lyon avec son effectif, Tu peux me dire qu'il n'est pas capable de jouer en 4-2-3-1 avec une pointe, un 9,5 derrière, un côté droit, un côté gauche. Et après, au bout de 60 minutes, si tu as réussi à construire ta victoire, eh bien à ce moment-là, tu peux terminer le match avec 3 numéros. Ouais,
mais moi, je te parlais surtout de la formation. Est-ce que tu n'as pas l'impression que la formation lyonnaise est en train de retrouver sa vigueur?
Mais je comprends pas, avec quoi?
Bah avec les jeunes qu'on est en train de voir là ces derniers temps. Tu vois les Barcola, les Cherki qui jouent l'équipe première. Enfin, t'as l'impression qu'ils reprennent.
Cherki, ça fait quand même un moment que.
Barcola, c'est tout frais.
Moi, ce qui me plaît aussi, c'est l'arrière droit.
Ouais.
Qui est une post-formation, coach. Hein. Il est arrivé du Havre la saison dernière.
Il fait partie quand même des jeunes, alors peut-être pas formés. Mais bon, pour le moment, je le vois là. Et si tu me fais choisir entre lui et Mal Augusto, ben je préfère lui. Mais t'as chacun ses goûts.
Il y en a que vous aimez bien, vous, parmi les jeunes lyonnais, les gars, là ?
Bah, il y a toujours Maxence Caqueret, même s'il a eu vraiment un gros trou d'air, mais ça reste un milieu hyper intéressant. Faut aussi remettre dans le contexte du Lyon instable des dernières saisons, parce que, Cherki, on le répète, il est encore très jeune, il a que 19 ans, même si il en agace beaucoup, dont moi, c'est souvent, on a l'impression qu'il peut faire beaucoup plus, même s'il en fait déjà beaucoup. Mais ouais, Caqueret, le petit Barcola... à la décharge de Laurent Blanc, de ce que tu disais tout à l'heure, coach, c'est vrai que sur ses premières titularisations, il paraissait vraiment très très frais. Là, il manquait quand même de hargne dans la surface de réparation. Ça a tendance à s'améliorer ces dernières saisons, mais puis aussi derrière, voilà, Castello Luqueba, qui est intéressant.
Ouais, j'allais le dire de là à l'aimer, je ne sais pas, mais en tout cas à voir sa progression. C'est un jeune joueur qui s'est imposé dans le 11 de l'Olympique Lyonnais, qui est en train de prendre de l'expérience, qui est en train de prendre des matchs à ce poste-là, au poste de défenseur central. À 20 ans, on sait ô combien c'est important d'avoir joué des matchs, et mine de rien, il en est à 57 matchs de Ligue 1 disputés, Castello Luqueba, à 20 ans seulement, pour un défenseur central, ça n'est pas rien, et ça devrait lui permettre dans les années à venir peut-être de s'imposer parmi les meilleurs.
Ouais, il y a de la ressource dans cette équipe de l'OL, et c'est vrai que là j'étais en train de voir le 11 de départ. Mais, enfin, y compris les joueurs sur le banc, il n'y a pas Lopez. T'en as quand même pas mal des joueurs formés au club hein, sur la feuille de match de Laurent Blanc. Sauf que, comme tu disais, Roland, c'est sûr que quand t'es 10e de Ligue 1, c'est pas forcément une bonne pub pour ton centre de formation. Hein.
Ben oui, mais de l'autre côté, tu prépares là en ce moment, avec en plus une demi-finale de coupe, ce qui est quand même très important. Tu prépares aussi la saison prochaine, et il y a encore l'occasion de voir les progrès que vont faire ces 4 ou 5 joueurs qui peuvent devenir des titulaires, peut-être pas à part entière, mais qui peuvent faire partie des 13-14 meilleurs joueurs de l'effectif de Lyon.
On accueille Sam, supporter de l'OL, qui est avec nous au 32-16. Supporter de Nantes, on vous attend également avec Roland Courbis. On vous pose cette question. Voulez-vous que Camboiré poursuive à Nantes la saison prochaine? Lui, dans le contrat, arrive à échéance à la fin de la saison. Salut Sam.
Bonsoir tout le monde.
Merci d'être avec nous,
avec
Sam.
Avec plaisir.
Comment tu la vis, toi, cette saison, Sam, là?
Mes prescriptions d'antidépresseurs témoignent un petit peu. Non, c'est une saison compliquée. On la savait compliquée avant qu'elle commence, parce que le mercato était déjà très très suspicieux. Du coup, on fait pas comme je l'ai dit plusieurs fois. Maintenant, c'est une saison où, comme le dit coach Courbis, il faut qu'on donne du temps de jeu aux espoirs du club pour voir un petit peu ce qu'on garde, ce qui sera l'ossature de la saison prochaine, et autour de quoi, qu'est-ce qui nous manque pour faire un vrai bon mercato, ce qu'on n'a pas fait depuis un bon moment à Lyon, un bon mercato.
Alors essayons de positiver un petit peu, Sam, quand on est supporter de l'OL, c'est quoi pour toi les satisfactions lyonnaises tout de même de la saison?
Bah, le parcours en coupe, hein, on va pas bouder notre plaisir là-dessus, parce que si on arrive à décrocher l'Europe, ce serait inespéré au vu de notre régularité inexistante de jeu en championnat. Si on arrive à décrocher l'Europe, ce sera très bien justement pour garder certains joueurs et pour avoir des arguments pour chercher des joueurs intéressants pour la saison prochaine.
Et donc peut-être ça, la Cazette vraiment... aussi, non? Dans les satisfactions?
Ah oui, la Cazette, oui, ça, on y est tellement habitué que nous, on l'oublie. On a l'impression que, mais oui, la Cazette très, très contente de son retour. Tolisso, on savait que ce serait compliqué parce qu'on faisait pas de, miracle. Si les médecins, le staff technique médical du Bayern n'arrivait pas à lui donner une régularité physique, Lyon fera pas mieux. Donc on n'est pas surpris. Mais la Cazette, c'est impeccable dans la mentalité. Dans l'effort, à la finition, dans la participation dans le jeu. On a vu quand il était blessé, immédiatement l'équipe elle est retombée.
Et prions pour qu'il ne rentre surtout pas dans cette catégorie de joueurs qui n'arrêtent pas d'être plutôt à l'infirmerie que sur le terrain.
Sam, merci d'avoir été avec nous.
Merci,
monsieur. Bon match à toi, Sam. Salut. Bon match à toi. Merci. Salut, Sam. Coup d'envoi donc de ce Lyon-Nantes, 21h sur RMC. Et la compo nantaise, ça y est, tu l'as trouvé, Timothée.
Ouais, j'ai trouvé. Elle a mis du temps à remonter jusqu'à la tribune de presse. Mais on l'a avec, dans la cage, Alban Lafont, une défense centrale Castelletto-Palois, Joao Victor sur le côté gauche, Fabien Santon sur le côté droit, à la récupération, André Girotto, avec flanqué de Moussa Sissoko et Florent Mollet. Et puis sur le côté gauche de l'attaque, Moses Simon sur le côté droit. Evan Guessant, et à la pointe de l'attaque, ce sera ni Ganago ni Delors, mais Mostafa Mohamed, qui semble avoir grimpé donc, un petit peu, regrimpé dans la hiérarchie
donc,
des attaquants.
Avec Mollet et trois attaquants, donc eux, ils ont un quatuor offensif, ce qu'on n'a pas à Lyon qui joue à domicile. C'est bien ça?
Oui, c'est ça, c'est exactement ça, parce qu'il n'y a pas, que la Cazette, Barcola et Sarr.
C'est pas interdit, hein.
Voilà, supporters de Nantes, on vous attend en 32-16 avec Roland Courbis avec cette question. Voulez-vous que Camboiré poursuive chez les Canaries la saison prochaine? Il est en fin de contrat, on vous attend en 32-16. Adrien vous attend, 21h, coup d'envoi de ce match. On écoutera également Christophe Galtier qui était en conférence de presse avant le match face à Rennes, ce sera dimanche. Et puis on écoutera également Samuel Gigot. Il y a un joueur qui est dans le viseur des supporters de l'OM, de pas mal de journalistes aussi, c'est Léo Balerdi. Gigot a pris sa défense après Guendouzi, supporter de l'OM. Vous en pensez quoi de Balerdi? On vous attend là aussi au 32-16. A tout de suite sur RMC.
RMC, l'After Live.
Nicolas Villas.
20h20, vous êtes sur RMC, on est à 40 minutes du coup d'envoi de la première affiche de la 28e journée de Ligue 1, Lyon face à Nantes, match qu'on vivra avec Timothée Mémon et Aurélien Tiercin qui sont au Groupama Stadium. Roland Courbis est toujours parmi nous, cette 28e journée de Ligue 1 et qui se poursuivra notamment dimanche avec à 17h05 l'affiche entre le Paris Saint-Germain et Rennes. Alors côté PSG, beaucoup de blessés en défense. Moukiele touché aux ischios est en soin. Hakimi et Marquinhos sont en phase de reprise. Ramos, qui est touché au mollet, a été ménagé aujourd'hui. En plus de ça, il y a une gêne musculaire pour Carlos Soler. Alors Galtier qui expliquait qu'il espérait pouvoir compter sur Ramos et Marquinhos quand même en défense contre Rennes. Bonne nouvelle, Messi qui était absent de l'entraînement hier était bien là ce vendredi. Le PSG qui compte 10 points d'avance hein, sur l'OM en Ligue 1, il n'a plus que le championnat à jouer, ça vous le savez. Galtier qui était en conf de presse aujourd'hui, est-ce qu'il se projette déjà sur la saison prochaine, l'entraîneur du Paris Saint-Germain?
Il n'y a chez moi aucune projection sur la saison prochaine en termes de voir comment l'effectif va être dessiné. Je suis très concentré sur, je vous le répète encore une fois, les 11 derniers matchs et omniblé pour aller chercher ce titre. Ce que ça change de jouer une fois par semaine, c'est déjà, j'ose espérer que ça va pouvoir nous permettre de récupérer des joueurs.
Alors le PSG qui ne se projette pas encore sur la saison prochaine, pas non, Christophe Galtier dans son discours. Mais
c'est pas le PSG qui se projette pas.
C'est Christophe Galtier.
Ben oui, donc ouais. Il ne peut pas, avec la saison que le Paris Saint-Germain est en train de faire, il peut pas, disons, dire oui, bien sûr, maintenant les matchs à venir, ils vont servir, comme on vient de parler là, pour Lyon. C'est impossible qu'il puisse dire ça, donc il est obligé de dribbler.
Alors c'est plutôt de la com, alors tu dis Roland.
Ah ben oui.
Est-ce que pour toi c'est
Tu t'imagines en train de dire chaque match là, je réfléchis un petit peu dans quel secteur il faudra qu'on soit renforcé la saison prochaine pour qu'on lui dise quoi. Mais vous êtes sûr de rester vous la saison prochaine?
C'est la question que j'allais te poser. Toi tu l'interprètes comme ça? Il peut pas se projeter parce qu'il sait pas si lui-même il sera là?
Mais c'est tout à fait logique.
Alors, parmi les dossiers à traiter en vue de la saison prochaine, justement, il y a la prolongation de Messi. Alors ça, on est où? Réponse de Galtier, là encore.
Je sais que Léo, la direction sportive, le président, échange beaucoup. Léo est heureux dans le vestiaire. Léo, c'est 18 buts, 17 passes décisives cette saison. C'est un joueur important, de par son comportement dans le vestiaire tous les jours. C'est un joueur qui, avec son âge, s'entraîne tous les jours et qui est toujours heureux de jouer et toujours heureux de bien faire jouer ses partenaires. Après, concernant son avenir, il est bien trop tôt de savoir ce qui va se passer.
Est-ce que c'est trop tôt, Roland, pour parler de prolongation concernant Léo Messi, sachant que ça fait des semaines, des mois, hein, que ça traîne, hein.
Mais ouais, mais là aussi, c'est pareil.
C'est donc, pas à lui d'en parler, oui.
Mais voilà. Donc là, poser la question, moi j'aurais parlé uniquement du match de Rennes. J'ai écouté en ce qui concerne les contrats, les renouvellements de contrats et tout, chacun son boulot, voyez avec la direction. Je sais que Messi est en train de discuter. Comment vont les discussions? Je suis pas encore au courant.
Tu trouves ça inquiétant comme situation ou pas, toi, côté parisien, là, ce qui se passe? C'est-à-dire, là, le fait que t'es plus que le championnat à jouer, que tu doives déjà préparer la saison prochaine et le mercato qui va arriver, que t'as beaucoup de joueurs en fin de contrat, dont Léo Messi, qui est quand même pas n'importe qui, et que les tractations traînent depuis un moment. Faut aussi savoir autour de qui tu vas construire la saison pro déjà là.
Ah ben oui, exactement. Mais faut-il encore qui va diriger la saison pro et ensuite il y en a un autre, Nicolas, de problème qui est encore plus compliqué, c'est les retours.
Les retours de prêt.
Tu t'imagines qu'on pose la question à Christophe Galtier qui vient de se faire éliminer en Coupe de France, qui vient de se faire éliminer en Champions League en lui disant donc pour les gars qui doivent rentrer de prêt, quels sont les joueurs qui vous intéresseront pour la saison prochaine? Mais il peut pas répondre à cette question-là, donc heureusement qu'elle n'y a pas été posée. Mais il y en a deux, trois qui ressemblent un petit peu à ça comme question. C'est des questions où lui, dans la position où il est, il ne peut pas répondre.
Si tu te mets dans la position des dirigeants du Paris Saint-Germain, tu fais quoi, toi, avec Léo Messi? Tu prolonges ou pas, Roland?
Ah, je ne sais rien.
Non, mais toi, t'en ferais quoi?
Mais je sais pas comment ça se passe la transaction. Je sais pas si le joueur il veut vraiment rester. Je sais pas si sa famille est heureuse. Je sais pas comment se passe la prolongation sur le plan financier, sur le plan
sportif. Oui, mais toi en tant que coach sportivement justement, t'en penses quoi de ses prestations de?
Ah ben la saison elle est quand même intéressante. Ouais. Après je vais pas changer son âge. C'est 35 ans qui tous les mois. Il prend comme tout le monde un mois de plus et c'est vrai que la saison prochaine repartir avec les trois la guérison de Neymar, Messi et Mbappé, il y a les avantages mais il y a aussi les inconvénients.
Allez, supporters de l'OM, on vous attend vous aussi au 32-16. On va évoquer le cas Léo Balerdi qui sera suspendu dimanche à Reims. Ce sera l'affiche d'ailleurs de dimanche soir, 20h45 à suivre là aussi sur RMC. Suspendu deux matchs, Léo Balerdi. Alors, il y a pas mal de joueurs marseillais, pas mal de ses coéquipiers qui ont pris sa défense aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Balerdi? Est-ce qu'on est trop sévère avec lui? Supporters de l'OM, on vous attend au 32-16 avec Roland Courbis. On est à 33 minutes du coup d'envoi de la première affiche de la 28e journée de Ligue 1. Lyon face au FC Nantes. Ce sera à suivre sur RMC. À tout de suite.
RMC, l'After Live.
Nicolas Villas.
Il est 20h30, vous êtes sur RMC dans une demi-heure. Coup d'envoi de la première affiche de la 28e journée de Ligue 1. Lyon face à Nantes. Match qu'on va vivre avec Timothée Mémon et Aurélien Tiercin. Supporters de Nantes, on vous attend au 32-16. Venez nous dire si vous voulez camboire et poursuivre au FC Nantes la saison prochaine, lui qui est en fin de contrat avec les Canaries. Avant d'évoquer ça, on va s'arrêter un instant sur Marseille. Marseille qui jouera dimanche à Reims. Ce sera l'affiche de dimanche soir à 20h45. Vous savez que Reims a toujours pas perdu depuis l'arrivée de Will Steele. Reims a pas perdu en Ligue 1 depuis le mois d'août. C'est quand même fou, hein, ce qui se passe avec
ça. C'est extraordinaire. Ouais. Et on regarde un petit peu. Alors évidemment, il y a beaucoup de matchs nuls. Tu sais très bien, là, je ne plaisante pas qu'avec la victoire à 3 points, un match nul, c'est une petite défaite.
9 victoires, 8 nuls, Will Steele en Ligue 1.
Mais ça ne fait rien. Donc ce que fait Reims là, depuis quelques mois, ils ont raté ce match en Coupe de
contre
France
Toulouse,
contre
ouais.
Toulouse. Mais Toulouse, cette année... C'est pas un cadeau, c'est peut-être Toulouse qui va la gagner cette Coupe de France. Ce qui se passe à Reims, c'est quand même très intéressant parce que j'ai regardé attentivement le dernier match à Monaco. Même quand il y a des passages où ils sont pas trop bien et tout, il y a le gardien qui fait un exploit, il y a le poteau, il y a la transversale. Ouf, c'est pas facile à battre cette équipe de Reims en ce moment, hein. C'est remarquable.
Et Marseille devra faire dimanche quand Balerdi qui est suspendu après son exclusion face à Strasbourg. Alors le défenseur argentin qui est bien visé par les critiques cette saison, Samuel Gigot a pris sa défense aujourd'hui en conférence de presse.
Moi je pense que c'est un vrai guerrier, il a jamais rien lâché et il va se relever encore une fois de cette épreuve. Il a déjà montré un gros caractère avant et j'en doute pas.
Matteo Guendouzi, lui aussi, avait pris la défense de ce coéquipier il y a quelques jours face à des supporters. Supporters de l'OM, venez nous le dire au 32-16. Est-ce qu'on est trop sévère, finalement, avec Léo Balerdi? Je sais, mon Roland, que tu le portes dans ton cœur, hein, toi aussi. Hein.
Ben, c'est-à-dire que je constate et je regarde qui y a à son poste et je regarde aussi ce qui lui est demandé par rapport aux qualités qu'il a et par rapport au progrès qu'il doit faire. Jouer avec trois arrières centraux aujourd'hui, c'est une organisation qui est à la mode. Il faut être rapide, il faut être bon dans les 1 contre 1, il faut être dans des bonnes distances de marquage, tous des secteurs où il doit progresser. Donc, dans la qualité des arrières centraux de l'OM, il y a pour moi Mbemba qui est en tête. Ensuite, allez, je mettrai Execo, Bailly et Gigot. Et Balerdi en quatrième, ben Kolasinac, pour moi, c'est un arrière gauche ou un couloir gauche.
Mal en défense centrale aussi cette saison.
Il peut dépanner au poste d'arrière central, mais je le mets ex aequo avec Balerdi en quatrième position des 5 défenseurs de l'Olympique de Marseille.
Alors, quand on regarde les stats de l'OM cette saison, Balerdi, c'est le 4e joueur le plus utilisé par Igor Tudor. Comment on l'explique alors ça? Quoi, lui, il le considère meilleur que les autres?
Mais certainement.
Ouais.
Et puis c'est peut-être Tudor qui a raison. Moi, tout ce que je te dis, c'est ce que je vois, c'est ce que je pense. Si par exemple il y a Tudor qui pense que il est meilleur que Bailly, il est meilleur que Gigot, et il est meilleur que, tant mieux pour Balerdi.
Mais c'est pas devenu un peu le fusible, la tête de Turc, le bouc émissaire là, Balerdi? Dès que Marseille ne gagne pas, c'est Balerdi.
Mais c'est pas comme ça qu'il faut regarder les choses. C'est que dès que Marseille prend un but, il est souvent concerné. Ça a rien à voir avec ta façon à toi de voir les choses. Hein. Donc là, regardons, soyons indulgents, mais pas non plus d'une extrémité à l'autre. Qu'il soit défendu par ses coéquipiers, ben, il manquerait plus que ses coéquipiers, quand tu leur poses la question, ils disent non, c'est une truffe. Il est 9 fois sur 10 de responsable des buts qu'on encaisse. Non, là, évidemment que je déconne. Mais là, ce garçon-là a l'air très sympathique. Ce garçon-là fait le maximum pour progresser. Il doit faire le maximum à l'entraînement. Ça doit être un exemple de sérieux. Mais dans cette organisation où il faut vraiment être très bon défensivement, mais c'est limite. Dans un 4-4-2 d'une autre époque, je pense que certaines bêtises aurait été évité et on se serait pas aperçu des progrès qu'il a à faire.
Tiens, pour aller dans le sens de ce que tu dis, Roland, on va réécouter Matteo Guendouzi. Alors, il était en train de signer des autographes, hein, à la sortie de la commanderie avec certains supporters de l'OM. Et puis, il y en a certains qui ont critiqué Balerdi. Alors, il faut bien tendre l'oreille. Le son est pas très bon. Ça a été filmé au téléphone par l'un des supporters présents. Mais écoutez bien ce que dit Guendouzi pour défendre Balerdi.
Balerdi, c'est un très bon joueur. Donc, qui a dit qu'il est pitant? Il a fait 10 erreurs.
Voilà, il dit tout le monde fait des erreurs. Il dit pas, il en fait pas, tu vois. Ça va dans le sens de ce que tu dis, Roland, finalement.
Oui, mais dans le sens que justement, il répond à une question qui est terrible ce soir, Nicolas, où tu le fais exprès ou quoi. Donc les supporters sont en train de dire qu'il est responsable et qu'il a fait des erreurs sur dizaines de buts. Ben lui répond, tout le monde en fait des erreurs. Donc tu as oublié la moitié des réponses ou tu le fais exprès?
On a accueilli Benoît, supporter de l'OM. Salut Benoît.
Bonsoir messieurs, bonsoir à tous.
Bienvenue Benoît.
Merci.
Alors qu'est-ce que t'en penses du cas Balerdi toi Benoît?
Ah, alors, il a posé une question sans qu'elle soit tordue. C'est la première. Tu as une chance toi que tu ne peux pas
savoir. Je suis journaliste Roland, bien sûr, à chercher le clic.
Alors ben moi ce que j'en pense c'est que je suis quand même d'avis beaucoup avec Roland parce qu'il a fait énormément d'erreurs qui ont coûté des buts et des buts importants à l'OM. Et l'autre chose qui me dérange un petit peu c'est la suffisance. Je me suis amusé lors d'un dernier match où il a joué avant de prendre son carton rouge à regarder les attitudes qu'il a et les regards qu'il lance à ses adversaires. Et j'ai l'impression que le fait d'être titulaire, en plus, il a une espèce de côté un peu hautain. Et malheureusement, ce qui est assez drôle à regarder, c'est que les regards hautains qu'il peut jeter, dans les 10 minutes qui suivent, il y a un but contre l'OM. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce joueur-là. Je pense que techniquement, ça ne correspond pas à une équipe qui est très offensive et qui a besoin de défenseurs plus expérimentés, plus techniques dans la relance.
Je vais te couper et pour te poser une question, et à toi aussi, Nico. C'est pas une question piège. Hein. Dans les 3 arrières centraux, il faut quand même qu'on se mette d'accord sur une chose, c'est que c'est l'organisation à la mode. dans cette organisation-là, que j'ai le plaisir de connaître, parce que je me suis penché pendant des années sur les avantages, les inconvénients de jouer à 2, de jouer à 3, de jouer à 4, bon, bref. Donc, tu as 3 arrières centraux. Ces 3 arrières centraux, c'est pas que tu les prends, là, tu dis, voilà, t'es, on va mettre 3 arrières centraux. Non, il y a un arrière central côté droit qui a un certain boulot, il y a un arrière central axial qui est un petit peu plus un libéro qu'un stoppeur, et il y a un arrière central côté gauche. C'est comme si en rugby, tu confondais, si tu fais pas attention, le talonneur avec les piliers dans les 1, 2, 3. Donc, Balerdi, je vous pose la question, son poste, c'est dans l'axe ou sur un côté parce qu'il a joué les deux, c'est l'homme à tout faire. Arrière central côté gauche, arrière central axial ou arrière central côté droit. Là, pour moi, on lui en demande trop. Donc vous, c'est quoi son poste si vous êtes à la place de son entraîneur et qu'on joue à trois derrière, il joue où?
Tu le mets où, Benoît?
Ah, moi, je le mettrais plutôt à droite. Pas arrière central, c'est une trop grosse responsabilité pour un joueur qui gère mal la pression. Très clairement, pour moi, si quelqu'un doit jouer plein axe, c'est ou Chigo ou Mbemba. Donc pour moi, il doit jouer plutôt à droite.
Moi, je le mets à droite, mais sur le banc de droite.
Oui.
Non, mais c'est vrai, tout à l'heure, tu faisais la hiérarchie des défenseurs centraux. Moi, je suis d'accord avec toi, Roland. Mais moi, je mets Kolasinac devant lui, moi aussi. Hein.
Ah oui, moi aussi, clairement.
Franchement, il fait super saison à ce poste-là.
Mais oui, c'est
une révélation pour tout le monde.
Kolasinac aussi, dans ce que je dis, si possible, c'est pas non plus interdit de jouer sans gaucher, mais si tu as un gaucher, c'est quand même la saison dernière, tu as Saliba qui est pour moi extraordinaire, tu as Pérez, on n'en parle même plus, mais qui est quand même un arrière central de très très haut niveau, tu avais Camara qui pouvait jouer arrière central et numéro 6 dans ce secteur-là. L'effectif de l'Olympique de Marseille de cette année est un peu moins bon, c'est tout, point final. Oui. Mais dans tous les autres secteurs, je les trouve supérieurs que la saison dernière.
Tu le sens comment le match de demain, Benoît? On le disait, hein, face à une équipe de Reims qui est sur un nuage en Ligue 1 depuis que Will Steel est arrivé.
Moi, je suis très inquiet parce que le style Will Steel, notamment, c'est quand même beaucoup basé sur le contre. Et malheureusement, c'est ce qui fait le plus de mal à l'OM. Aujourd'hui, on a une équipe qui est très offensive, mais on a un gros bémol, c'est qu'on a personne réellement pour marquer les buts et pour finir les actions. Et contre une équipe comme celle-là, moi, je t'avoue que je suis pas rassuré complètement et j'ai un peu peur de ce que les Rémois peuvent nous faire subir demain.
Ben, ouais. Si c'est une question un petit peu que j'ai répondu aujourd'hui, puisqu'on est toujours passionné, alors que tu penses ci, tu penses là. Mais moi, pour moi, un match nul à Reims pour l'OM,
je trouverais ça un
très bon résultat.
Et ben, ce sera dimanche, 20h45. Benoît, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
À très vite, Benoît.
Salut, Benoît.
À très vite, Benoît. Salut. Supporters de Nantes, on vous attend au 32-16 pour répondre à cette question. Voulez-vous qu'Antoine Camboiré reste au FC Nantes et soit là la saison prochaine? Lui qui est en fin de contrat dans 20 minutes. Coup d'envoi de la première affiche de la 28e journée de Ligue 1. Lyon face à Nantes. On va le suivre avec Timothée Mémon, avec Aurélien Tiercin et avec Roland Courbis, bien entendu. À tout de suite sur RMC.
RMC, l'After Live.
Nicolas Villas.
Avec Roland Courbis, on est à 15 minutes pile poil du coup d'envoi de la première affiche de la 28e journée de Ligue 1. Lyon-Nantes, match qu'on va vivre avec Timothée Mémon et Aurélien Tiercin qui sont au Groupama Stadium. Petit rappel des compos, les gars.
Avec du côté lyonnais, Rémi Rio toujours titulaire dans les cages, Anthony Lopez absent, Castello Luqueba et Dejan Lovren dans l'axe défensif, Sahel Koumbédi latéral droit, Nicolas Taliafico latéral gauche, un milieu à 3, Johan Le Penant, Maxence Cacré et Corentin Tolisso, et puis devant Alexandre Lacazette et bien titulaire, Bradley Barcola à sa droite et Amine Sarr à sa gauche. Ryan Cherki sur le banc des remplaçants, il avait enchaîné 12 titularisations lors des matchs précédents.
Et du côté de la composition nantaise, ce sera Alban Lafont dans la cage, une défense à 4 ou à 5 avec Palois, Giroto, Castelletto dans l'axe, Santonze et João Victor sur les côtés, à moins que Giroto ne remonte d'un cran, auquel cas il serait dans un milieu à 3 avec Florent Mollet et Moussa Sissoko, et puis devant un trio offensif composé de Moses Simon, de Mostafa Mohamed et de Evan Guessant de gauche à droite.
Supporters de Nantes, on vous attend au 32-16 parce qu'il y a une question en suspens depuis un moment chez les Canaries. Antoine Camboiré sera-t-il toujours l'entraîneur du FC Nantes la saison prochaine? Alors le contrat de Camboiré arrive à son terme à la fin de la saison. Info qui nous viennent de notre Pierre-Yves Leroux. Alors vous savez que ses rapports avec Valdemar Quita oscillent entre le chaud et le froid. Les résultats actuels pourraient inciter Quita à prolonger Antoine Camboiré ou pas. Au-delà du maintien en Ligue 1, on rappelle que Nantes compte actuellement 6 points d'avance sur la zone rouge. Une éventuelle place en finale de Coupe de France pourrait peser également dans le choix de Valdemar. Des Marquita, supporter de Nantes. Voulez-vous que Camboire poursuive à Nantes la saison prochaine? On vous attend au 32-16. Je te pose la question à toi, Roland.
Oui, à 100%, non?
Ouais, je sais pas. Visiblement, Kita se pose un peu la question. Est-ce que la question, d'ailleurs, c'est pas est-ce qu'on va au Camboire, vous restez aussi?
Ah, ben oui. Ça, ok, là, je peux pas répondre. Mais sinon, en ce qui concerne les supporters, tu gagnes la Coupe de France la semaine dernière, tu as une demi-finale cette année. Bon, tu as fait un parcours sympa en Coupe d'Europe, tu es éliminé alors qu'on t'expulse un joueur sévèrement contre la Juve.
T'es pas sauvé encore, hein, Roland, hein.
Non, mais...
t'es à 6 points d'avance sur la zone rouge. Hein.
Oui, d'accord que tu n'es pas sauvé, qu'il faut faire gaffe. Mais bon, tu peux faire gaffe aussi et voir logiquement comme Lyon d'ailleurs. Hein, mais Lyon, eux, ils sont sauvés. Mais que le match le plus important d'ici la fin de la saison, c'est dans un premier temps la demi-finale et dans un deuxième temps la finale. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce soir, que ce soit du côté de Lyon, que ce soit du côté de Nantes, on peut prendre un pari, tu sais, dans l'émission des paris, que les compositions d'équipe du Nantes-Lyon, ça sera pas tout à fait les mêmes que ce soir.
Ouais, pour les deux clubs, c'est la priorité, tu penses, la coupe?
Ah bah oui.
Ouais. Même pour Nantes qui a 6 points d'avance, encore une fois, sur le maintien.
Oui, d'accord, mais bon. Que 6 points d'avance, ok, mais c'est quand même 6 points d'avance.
Bah tiens, on va écouter justement Antoine Camboire. Vous savez que les deux équipes vont se retrouver donc en demi-finale de Coupe de France le 5 avril. Est-ce qu'il y pense déjà à ça, Antoine Camboire, le tenant du titre?
Ah, mais c'est tellement loin pour nous, la demi-finale. Donc les gens penseront forcément donc en jouant ce match-là. Et quand j'ai les gens, j'espère pas les joueurs, parce que donc nous, c'est un match de championnat, un match où on joue le maintien. Hein. L'objectif, c'est d'aller là-bas faire un résultat pour nous maintenir. Après, on n'empêchera pas les gens donc d'avoir déjà un peu la tête, tous les supporters. Moi, non. Hein. Moi, j'ai envie de gagner ce match-là parce que donc voilà, pour plein de raisons, ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné. Et contre Lyon, on joue le maintien. Il y a 3 points à prendre qui sont importants. Hein.
Et tu sais, Nicolas, qu'on est toujours dans ce que j'appelle la stupidité de quand on fera cette finale. Donc je crois que la finale de la Coupe de France se fera avant 5 journées de la fin. Mmh. Donc là aussi, donc si justement on est inquiet, ce qui est tout à fait logique, quand on a seulement 6 points d'avance, tu t'imagines quand tu vas jouer la finale, tu as plus la tête au maintien ou à la finale? Ah, c'est quand même quelque chose. Il faudra qu'on m'explique pourquoi cette Coupe de France et cette finale de Coupe de France ne clôturent pas notre championnat. C'est les deux équipes qui jouent la finale, désolé, mais ça force tous les 5 matchs d'après.
Ouais. Timothée, Aurélien, alors c'est vrai que la situation est d'autant plus délicate pour Nantes que la forme du moment, c'est pas trop ça. 1 point sur 12 possible, hein, pour Nantes. Hein.
Ouais, effectivement, c'est une équipe qui est en difficulté, qui a peut-être un peu eh bien, concentré son attention, sans le vouloir, évidemment, en s'en défendant, mais sur la double confrontation face à la Juventus, c'est un petit peu logique que ce match ait peut-être vampirisé l'attention de cette équipe de Nantes. Depuis le match aller face à la Juventus, il y a eu 4 défaites, une victoire face à Lens et un match nul face à Nice. Bref, ça va pas très très fort pour cette équipe de Nantes, mais qui est, à en croire Camboire, dans la zone qui était destinée à être la sienne en fin de saison. Il le dit depuis le début, cette équipe, elle est là pour batailler pour le maintien. Quand il est arrivé, il a sauvé cette équipe du maintien de la relégation, pardon, qui lui pendait au nez. Aujourd'hui, il a pas la prétention d'avoir non plus tout bouleversé, parce qu'il a réussi à gagner une coupe et à aller un petit peu loin en Coupe d'Europe.
Roland, est-ce que tu penses que quand on entend le Camboire, on vient de remporter une Coupe de France, on n'a pas envie aussi, je sais pas, d'un autre projet, de viser un peu plus haut aussi?
Et oui, tu peux en avoir envie, mais tu peux aussi ne pas en avoir les possibilités. Et aller dans un club supérieur à Nantes, pourquoi pas? Antoine en aurait certainement les qualités, mais est-ce qu'il en a la proposition? Et aujourd'hui, il est quand même bien installé. Il connaît son effectif de A à Z. Il doit pouvoir discuter avec ses dirigeants si on s'achemine vers des recrues qui ressembleront à des renforts ou tout simplement à des recrues. Ça, c'est une réponse que je n'ai pas. Par contre, refaire une deuxième fois une demi-finale et recevoir Lyon, pour moi, ça, dans les pronostics, ça sera du 50-50. Et imaginons que Lyon arrive, que Nantes arrive à battre Lyon et on fasse encore une finale de Coupe de France, ça fait quand même un sacré parcours d'Antoine. Hein.
Allez, on va parier justement sur ce Lyon-Nantes.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Et avec Lyon Boumnoff. Salut Lyon.
Salut Nico, salut coach. Bonsoir.
Salut Lyon.
1,58 la victoire de Lyon, 4,20 le match nul, 5,70 la victoire du FC Nantes. Lyon va mieux quand même depuis quelques matchs, hein. Une seule défaite sur les 11 derniers, c'était face à Auxerre il n'y a pas très longtemps. La semaine dernière, ils ont fait preuve quand même d'une belle abnégation face à Lille où ils étaient menés 3-1 et sont revenus à 3 partout dans les 10 dernières minutes. Et de l'autre côté, Nantes, c'est pas top, hein. 4 défaites sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Mais Antoine Comboy l'a rappelé lui-même, ils ont besoin de points les Canaris pour assurer leur maintien et il l'a dit, ils veulent venir à Lyon pour chercher un résultat. Donc ils ont 6 points d'avance, mais 6 points ça va vite quand même, il reste 11 journées de championnat. Donc je savais pas trop quoi mettre sur ce match là moi je voyais plutôt un match équilibré et c'est pour ça que je vois plutôt un match nul à la mi-temps, ça c'est coté à 2,20.
C'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal.
Pas mal 2,20 à la mi-temps.
Ouais, pourquoi pas.
Qu'est-ce que toi tu vois pour ce match?
Bah, je vois quand même Lyon ne pas perdre ce match. Je me couvrirai dans un premier ticket des deux équipes qui marquent, donc je mettrai plus de 1,5. Oui. Avec le but de la Lacazette qui en plus tire les pénalties. Et après un deuxième ticket avec, je m'amuserai avec le 1 partout, 2-1 pour Lyon, 3-1 pour Lyon. Et but de la Lacazette.
Très bien. Alors Lyon ne perd pas, plus 1,5 but dans le match. Lacazette buteur, c'est coté à 1,88. 1 partout, 2-1 ou 3-1 pour Lyon, plus le but de Lacazette, c'est coté à 4,90. Et j'ai une dernière question pour vous, messieurs. Je vous dis des noms. Jeffinho, Dembélé, Ganago, Cherki, Delors, Blas. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ce soir? Eh bien, ils sont tous remplaçants. Pourquoi pas un remplaçant qui marque?
C'est pas mal, ça.
2,40.
Ah ouais?
2,40, le remplaçant qui marque avec tous les armes offensives qu'il y a sur le banc, ça peut peut-être être intéressant.
Bonne idée. Merci beaucoup, Yolian, tous les paris qui sont retrouvés sur rmcsport.fr.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Allez, coup d'envoi de ce Lyon-Nantes dans un instant sur AMC avec Thibaut Jean-Grande, avec Roland qui reste avec nous, bien sûr. Kevin Diaz arrive également. Thibaut Jean-Grande sera là, bien sûr. On vous attend au 32-16. L'after est là jusqu'à minuit. Première affiche de la 28e journée de Ligue 1. C'est juste après ça sur AMC.